Bonjour, c'est Jean-Marie Marco sur Radio Axe pour Invitation au Bonheur. Et comme chaque lundi, je reçois un invité différent et cette semaine, mon invité est...
Thierry.
Alors Thierry, nous nous connaissons à travers le groupement des entreprises des Boucles de Seine, puisque nous sommes tous deux entrepreneurs et tous deux voilà, bénéficions de cet espace, on va dire, qui permet de rencontrer des personnes. Et notamment, moi j'aime beaucoup parce que ça me permet de rencontrer des personnes que je ne rencontrerai peut-être pas, on va dire, dans la vraie vie. C'est-à-dire ce que j'appelle ces rencontres improbables. Et j'ai eu le plaisir voilà, de rencontrer Thierry et de l'apprécier. Il a accepté cette invitation et j'en suis ravi. Thierry, je vais donc te poser quelques questions et surtout voilà, partager ensemble des idées, des points de vue sur le bonheur. Le bonheur, c'est vaste, le bonheur, c'est individuel, c'est intemporel. Mais pour toi, le bonheur, c'est quoi ? À quoi il ressemble ton bonheur ?
Le bonheur, c'est un état de félicité. Pour moi, le bonheur, c'est synonyme d'une certaine sérénité. Je suis confortable avec ce que j'ai vécu hier, avant-hier, je suis bien dans le présent et je suis confiant par rapport à ce qui pourrait arriver demain à moi-même et puis aux gens qui me sont chers.
Tu as parlé de sérénité, tu as parlé de confort, voilà, c'est une notion que j'aime bien en ce moment, sur laquelle je réfléchis pas mal. Cette sérénité, elle te vient d'où ?
Je pense que ma vie est un parcours. Pour répondre à ta question, j'ai forcément réfléchi un petit peu à ce que je pourrais dire aujourd'hui aux auditeurs de Radio Axe. Ma vie est un parcours et je ne crois pas être né avec en moi. Je pense qu'il y a des gens qui doivent être nés avec davantage de confiance, de sérénité et de sûreté dans leur propre jugement. Et donc, en fait, chez moi, l'état que j'ai décrit en ouverture de mon propos, c'est quelque chose qui a été travaillé et que je travaille encore.
Donc c'est vraiment, j'utilise souvent la métaphore du chemin. Donc c'est un chemin que tu as commencé à creuser, à arpenter depuis longtemps maintenant, cette quête de sérénité.
Sans doute que chaque être humain est en quête de sérénité à partir du moment où il vient au monde. Pour ce qui me concerne, quand j'étais enfant, j'avais un mantra qui était « Vivement, quand je serai grand, je ferai ce que je voudrai ». Alors, c'est une considération qui est empreinte sans doute d'une certaine naïveté, parce que quand on grandit, on a des contraintes. Quand on est enfant, on en a aussi. Quand on est adolescent, elles sont autres. Mais en réalité, je pense être quelqu'un qui aime bien se prendre en main. Et j'ai commencé à faire ce travail de recherche du bonheur quand j'étais confronté à la nécessité d'être autonome dans la vie, matériellement, et puis de construire quelque chose en tant que jeune adulte. C'est là où j'ai vraiment pris conscience de la nécessité d'être bien dans l'humanité, c'est-à-dire de rechercher des situations qui me rapprochent de la position d'être bien moi-même, et puis dans la mesure du possible, d'apporter des choses sympas, des choses bien aussi autour de moi.
Et maintenant que tu es grand,
enfin, on n'est jamais grand. On a toujours l'enfant qui sommeille en soi.
Oui. Et maintenant que tu es grand, quels sont les espaces dans lesquels tu as le sentiment de faire ce que tu veux réellement ?
Je fais ce que je veux aujourd'hui dans ma sphère professionnelle. C'est là sans doute où j'ai le plus grand espace de liberté depuis que je travaille pour mon propre compte. Ce qui n'est pas évident. Parce que le salariat a ses avantages. Après, ceux qui ont expérimenté le travail indépendant ou la direction d'une entreprise connaissent d'autres problèmes, mais aussi d'autres possibilités, d'autres joies et d'autres libertés. Aujourd'hui, en vieillissant un petit peu, je récupère aussi quand même des espaces de bonheur, de félicité et de satisfaction en me disant que le chemin que j'ai accompli dans ma vie privée aussi aboutit à des choses concrètes qui me montrent que j'ai... fait pas mal de choses qui amènent des perspectives d'avenir plutôt sympas pour moi-même, pour ma chère et tendre épouse, et puis aussi le fait que j'ai l'impression que mes enfants, mes deux grandes filles, sont sur de bons rails. Elles sont à l'âge d'être étudiantes maintenant dans le supérieur, ça se passe plutôt bien. y a un truc qui est génial, c'est que récemment, mais c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps, des gens que je vois pas souvent, mais qui connaissent mes filles, qui les voient souvent, me disent tes filles, on t'en fait compliment. Parce que quelque part, quand on a réussi l'éducation de ses enfants, et Dieu sait si c'est difficile, mes filles nous ont jamais rendu la vie difficile à leur mère et à moi-même, mais quelque part, on se dit non seulement c'est bien pour l'instant présent, mais aussi on se dit que quelque part, on a doté ces enfants, on les a équipés du mieux possible pour qu'elles affrontent l'avenir sereinement, dans le bonheur.
Donc, tu es le papa de deux grandes filles qui sont donc de jeunes adultes aujourd'hui ?
Oui, elles sont adultes. J'ai une de mes filles qui a 21 ans, qui étudie à Versailles et qui est donc encore qui rentre à la maison tous les soirs. Enfin, pour l'instant, elle étudie même à la maison, dans les conditions sanitaires qu'on connaît.
Et oui.
Et mon autre fille vient de quitter le nid familial pour s'installer en province, pour y poursuivre encore pendant 5 ou 6 ans de longues études, puisqu'elle va faire comme maman, mieux que maman, dit-elle en rigolant, parce qu'elle elle est en voie de faire un bon petit médecin.
Et donc aujourd'hui, il y a aussi un esprit de liberté et de sérénité dans cette ambiance familiale.
Oui, c'est quelque chose, déjà parce que quand les enfants vont bien, sont en forme, réussissent. Bon, chez moi, la réussite, elle est dans les études de mes enfants. Elles en font toutes les deux davantage que moi, je n'en ai poursuivi. Peu importe la situation, quand les enfants vont bien, quand on a l'impression que le cocon familial donne à chacun de ses membres quelque chose, renvoie à chacun de ses membres quelque chose de positif, de réussi, quel que soit le vecteur de réussite, c'est quand même quelque chose qui est très important dans l'humanité, puisque finalement le fait de fonder une famille, de vivre ensemble, etc., c'est quand même un des fondamentaux de l'existence humaine.
Donc une vie de famille harmonieuse, un travail qui a l'air de te, en tout cas moi de ce que je te connais, un travail qui te passionne et qui te donne cet espace de liberté, bien sûr avec toutes les contraintes de l'indépendant, je sais de quoi je parle aussi. Et donc ce travail, c'est un travail, tu peux en parler un peu, si ce travail t'apporte aussi du bonheur.
Mon travail m'apporte du bonheur en ce sens que je suis quelqu'un qui, dans son travail, fait ce qu'il... J'ai découvert dans la vie que j'aimais transmettre. Et en fait, donc, l'une des composantes les plus importantes de ma profession aujourd'hui, c'est d'enseigner à des adultes des choses dont ils ont besoin techniquement, hein, des principes de gestion, de comptabilité, d'organisation de l'entreprise. Et quelque part, quand ils ont passé... Assez souvent, j'ai des témoignages qui font que quand ces personnes ont passé une journée, deux journées, trois journées avec moi, quelque part, on a été à l'essentiel et j'ai changé quelque part leur vie, au moins professionnelle, pour ce qui me concerne, parce que je leur ai donné deux ou trois trucs auxquels ils n'auraient pas pensé spontanément et qui vont, dès le lundi suivant, quand ils vont retourner à leur bureau, vont leur permettre de s'enlever une épine du pied ou simplement de se débarrasser d'a priori ou d'une certaine peur qu'on peut avoir et qui peut être bloquante. Notamment par rapport aux matières que j'enseigne, parce que la comptabilité, la fiscalité, la gestion, enfin tout ce qui se fait au bureau, ça ne passionne pas tout le monde, et même, je dirais, dans certains cas, ça crée des peurs qui sont bloquantes chez certains entrepreneurs qui, par ailleurs, ont des mains ou un cerveau en or.
Eh bien, on arrive maintenant à une deuxième partie de l'émission, pendant laquelle on va découvrir un titre que tu as demandé. Je vais d'abord passer ce titre pour que les auditeurs le découvrent eux-mêmes, et ensuite on en parlera. Thank you.
people, but you've got no soul, and it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. But you're crying now.
Thierry, nous venons d'entendre quoi exactement ?
Jerry Rafferty, c'est Baker Street, cette rue de l'ombre. C'est un disque que j'ai choisi parce que moi aussi j'ai eu l'occasion dans mes jeunes années, à l'époque où j'étais étudiant, d'animer des émissions de radio. À l'époque, c'était pas aussi structuré que maintenant. Et ce titre, donc notamment le solo de saxo qui introduit cette chanson, était l'indicatif d'une émission de Libre Antenne qu'on animait avec d'autres étudiants. On n'était pas du tout qualifiés pour le faire, mais on faisait parler les gens. Dans un nuage de fumée de cigarettes et en enchaînant autant de disques que de bières, on faisait ça. Et donc, en fait, ça reste un joyeux souvenir de ma jeunesse.
Une jeunesse qui se passait en Belgique.
Oui, ma famille est en Belgique. J'ai vécu en Belgique jusqu'à l'âge de 30 ans et je suis arrivé en région parisienne parce que j'y ai rencontré la personne avec laquelle je suis maintenant marié depuis 25 ans et que, à l'époque, il s'est trouvé que l'opportunité pour moi me paraissait bonne de venir m'installer en région parisienne pour des raisons donc sentimentales.
L'amour t'a fait voyager d'outre-Quiévrin, c'est ça, jusqu'en
c'est
France.
Ça. Ouais. Je me plais quand même à dire que je suis plus proche de ma famille qui est autour de Bruxelles, pour faire simple, qu'un Marseillais est proche de Paris, hein, ou qu'un Perpignanais est proche de Paris.
Est-ce que la notion de bonheur, pour toi, elle est différente dans la culture belge ou dans la culture française parisienne, telle que tu la connais aujourd'hui, voilà.
Alors, je crois que je porte en moi, malgré tout, un peu de belgitude avec un une manière d'avoir du recul sur les choses qu'on n'a pas forcément de la même façon quand on a une éducation plus gauloise, pour dire plus française, plus parisienne. Je ne sais pas comment dire les choses sans vouloir avoir l'air de porter un jugement, parce que j'essaie de ne pas en porter. Il y a un terme très sympa dans l'humour belge, c'est ce qu'on appelle la truculence. C'est une forme d'humour que, par exemple, quand je fais écouter certaines choses que je prends sur des médias belges et qui sont censées faire rire, je sais que ça ne fait pas forcément rire ma femme ou des gens qui sont autour de moi qui n'ont pas ces petites références culturelles qui me constituent de naissance.
Et tu parlais aussi de l'enfant intérieur, enfin, de garder toujours cette part d'enfance en soi. Le petit Thierry Gomans de 7 ans, qu'est-ce qu'il rendait heureux à ce moment-là?
Alors, c'est une question que tu ne pouvais pas poser, que tu ne pouvais pas ne pas poser. Donc, je m'étais préparé à la réponse. Normalement, dans le jeu de la vérité, on a un joker.
Oui, bah écoute, éventuellement, tu n'es pas obligé de répondre à mes questions.
J'ai réfléchi avant qu'on se connaisse. Si je ne répondais pas, les auditeurs pourraient penser que j'ai été élevé par des monstres. C'est pas le cas. Mais comme mon parcours a été un petit peu long et que j'ai fait référence à cela tout à l'heure en disant, je pensais souvent, quand je serai grand, je ferai ce que je voudrais. Et donc en fait, je n'ai aucun ressentiment par rapport à la manière dont j'ai pu grandir ou j'ai pu être enfant, puisqu'en fait, c'est simplement moi qui n'ai pas pris à l'époque les perches qui m'étaient tendues pour aller vers le bonheur et toutes ces choses. Il a fallu que je me constitue et j'ai coutume de dire que je suis né une deuxième fois. Quand je me suis pris en main, quand il a fallu que je me confronte par moi-même au monde des adultes, à gagner ma vie, etc. Et où je me suis rendu compte qu'il n'était pas possible que le monde tourne autour de Thierry, mais que c'était moi qui devais tourner avec la planète. Et donc, en fait, j'ai beaucoup plus de souvenirs heureux de ma vie d'adulte que je n'ai pu en conserver de ma vie d'avant, même s'il y en a. Et donc, encore une fois, tout simplement, je ne porte pas un jugement sur la famille dans laquelle je suis né. Tout simplement, je dis aujourd'hui, franchement, à l'époque, quand j'étais enfant, je n'avais peut-être pas le mode d'emploi qui me permettait de saisir tout ce qui m'a été offert à ce moment-là.
J'entends bien.
Est-ce que j'ai bien parlé ?
Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'entends bien. Moi, ça fait écho parce que je pense que je pourrais presque tenir le même discours. Et moi, ça fait aussi écho à quelque chose qui m'a énormément touché. C'est en lisant Boris Cyrulnik, notre grand pape de la résilience. Et qui nous dit ça, on a le droit de renaître, on a le droit de se refabriquer une enfance heureuse. Finalement, nous bénéficions, nous, êtres humains, d'une grande qualité, d'une grande capacité, assez méconnue, qui s'appelle la néoténie. C'est-à-dire notre capacité, finalement, de renaître, notre capacité de se reconstruire. Et ça, c'est très important parce que c'est dû au fait que nous vivons une grande partie de notre vie, nous construisons finalement en vivant et non pas dès le départ. Beaucoup des autres mammifères, par exemple, et encore pire chez des espèces animales, on va dire moins évoluées, qui sont les reptiliens par exemple, mais dès la naissance, ils sont automatiquement capables de faire un grand nombre de choses, de se débrouiller tout seul. Et nous, en fait, notre cerveau va grossir jusqu'à l'âge de 28 ans, donc on est vraiment, on va dire, fini. Lorsque nous sommes déjà largement considérés comme des adultes par la société, alors que nous sommes capables de nous reproduire déjà à peu près vers l'âge de 14 ans. Donc autrement dit, on est capable d'être parents alors qu'on n'a pas encore fini d'être enfant.
Jean-Marie, ok. Je savais que ça aurait été plus simple si je t'avais dit que j'adorais aller au parc avec ma grand-mère. Je savais que cette question finirait comme ça et on ne va encore pas avoir le temps d'écouter le disque à la fin de l'émission.
Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose ?
Ah oui, j'aurais bien aimé que tu me demandes de me présenter, non pas professionnellement, mais de me définir.
Alors, définis-toi.
Je suis un chercheur doté d'une formidable envie de vivre en dépit d'un tempérament anxieux et affectif. Je ne suis pas toujours compris. Les esprits conformistes ont parfois un petit peu de mal avec des gens qui, comme moi, ont dû se battre pour vaincre une certaine timidité.
Est-ce que c'est une force aussi, quelquefois, cette timidité ?
Alors moi, j'en suis arrivé à la conclusion que la timidité, qui m'a caractérisé, que la timidité, c'était une forme d'hypocrisie, parce que quelque part, on ne veut pas jouer le jeu. Et le jeu principal de l'humanité, ce sont les interactions. Mais c'est tout un travail d'en arriver à cette phrase.
Oui, tout à fait, parce que souvent, on me pose la question, moi aussi, en disant, voilà, est-ce que c'est de la timidité ou est-ce que c'est de la réserve ? Et moi, je crois que je fais la différence sur la souffrance. En fait, la timidité, c'est une souffrance. On aimerait participer au monde, mais on a du mal. La réserve, je fais le choix d'observer d'abord avant d'agir. On n'est pas du tout dans le même registre, me semble-t-il. Alors, le temps file. Peut-être dernière petite question. Si tu devais aujourd'hui symboliser le bonheur par un objet, une forme, je ne sais pas, un animal, quelque chose qui ne soit pas humain, ce serait quoi ?
Alors, c'est difficile parce que je ne suis pas hyper matérialiste. Mon chemin m'a montré que le bonheur ne se définissait pas par la possession. Maintenant, mon petit bonheur quotidien, c'est de pouvoir m'isoler au moins une heure tous les jours grâce à l'organisation professionnelle qui est la mienne avec mon chien.
C'est donc le chien, ce rapport avec le chien, c'est une source de bonheur.
Absolument.
Eh bien, je te propose qu'on passe maintenant à l'autre face qui est le temps du conte. Et donc, j'ai sélectionné un conte de sagesse. Donc, le conte s'intitule « La fenêtre aveugle ». Il était une fois un jeune prince qui vivait avec insouciance dans le palais de son père. Un jour, il demanda au vieux sage chargé de son instruction « L'argent est-il quelque chose de bon ou de mauvais ?» L'homme emmena le prince dans le salon du palais et le fit asseoir face à la vaste baie vitrée donnant sur la grande place. « Que vois-tu ? » interrogea l'ancien. « Je vois les enfants qui jouent sur la place, les jeunes filles qui dansent près du lavoir, les artisans qui travaillent dans leurs échoppes. » Le sage disparut un instant et revint avec un seau et un pinceau. « Qu'est-ce ? » dit le prince. « Un vernis à base d'argent. » Le vieil homme sortit du palais et recouvrit toute la baie vitrée d'une épaisse couche de peinture. Lorsqu'il rentra, le prince s'exclama « Mais il fait sombre, je ne vois plus rien !» Le sage alluma une lampe et demanda « À présent, que vois-tu par la baie vitrée ?»« Je ne vois plus rien, sauf moi, comme dans un miroir !» répondit le prince. « Je n'arrive plus à voir les autres !»« Tu as ta réponse à ta question !» dit le vieux sage, et il s'en alla. Le prince ordonna à ses serviteurs de nettoyer la baie vitrée, mais le vernis résistait. À force de frotter, la vitre réapparut, mais entièrement dépolie. Irrité de ne pouvoir retrouver une vision claire, le jeune prince, dans un accès de colère, lança violemment la lourde coupe d'argent qu'il tenait à la main contre la vitre. Celle-ci vola en éclats. Le prince put alors revoir toute la beauté du monde extérieur. Mais en plus, il pouvait maintenant entendre les cris des enfants qui jouaient, les chants des jeunes filles qui dansaient et les bruits des échoppes des artisans. Il pouvait sentir le parfum des épices et la caresse du vent. Il traversa le cadre vide de la fenêtre et se fondit dans la vie de la grande place. C'était donc le conte de sagesse qui fait peut-être écho avec nos conversations ou nos pensées. Et donc c'était Jean-Marie Marcos avec Thierry Gomans pour Invitation au bonheur. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux. Au revoir Thierry, merci.
Merci Jean-Marie, merci à toi.
lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart. I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Just remember there's a lot of bad.